Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Céline Hyde. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission. Nous axerons aujourd'hui la discussion donc plutôt sur les complications aiguës, c'est-à-dire les hypoglycémies qui pour beaucoup de diabétiques sont leur quotidien. Les hyperglycémies compliquées d'acétone et chez le diabétique de type 1 notamment, et de déshydratation, ce qu'on appelle les décompensations hyperosmolaires plutôt chez les patients diabétiques de type 2 âgés. Et puis si cela vous intéresse, nous aborderons aussi les surinfections aiguës de plaies diabétiques qui font partie des complications aiguës du diabète. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire chaque semaine, je commencerai par répondre en fait à quelques questions qui nous ont été posées durant la semaine et je répondrai par la suite à vos questions en direct. Je vais répondre à une question de Myriam qui nous demandait quels étaient les signes d'hypoglycémie et comment les traiter. Alors, Myriam, lorsqu'on est en hypoglycémie, donc la glycémie s'abaisse, c'est la définition, en dessous de 0,70 g par litre, et le patient va pouvoir ressentir certains signes, tels que des palpitations, des tremblements, une irritabilité, une pâleur, des sueurs, des troubles de la concentration, des étourdissements, des vertiges, des difficultés à se concentrer, une faiblesse générale, une fringale également. Souvent, ils le disent très bien, les patients, au moment de l'hypoglycémie, ils ont une faim très intense, difficilement contrôlable. Donc, ils ressentent des fringales. On peut ressentir aussi des nausées, la vue qui se brouille, un flou visuel. Et puis, si l'hypoglycémie n'est pas resucrée à temps, il peut apparaître des signes neurologiques avec une somnolence, des difficultés à parler, parfois des signes qui peuvent mimer un AVC, en fait, avec une paralysie d'un membre ou au niveau du visage. Et on peut également avoir des pertes de conscience, des convulsions et un coma. Donc c'est pour ça que ces hypoglycémies ne doivent pas être négligées, sont importantes à prendre en charge. Donc une fois que vous sentez en fait ces signes de malaise, de toute façon chez le patient diabétique, tout signe de malaise doit faire contrôler la glycémie capillaire. Beaucoup d'entre vous se surveillent par capteur de glucose, mais lorsque vous ressentez un malaise, il faut à ce moment-là contrôler la glycémie capillaire, donc prélever une goutte de sang au bout du doigt et confirmer l'hypoglycémie avec votre lecteur. Si l'hypoglycémie est confirmée, la première chose à faire, c'est de se mettre au repos. Vous arrêtez toute activité, vous vous mettez au repos et vous allez vous resucrer. Alors, on va vous conseiller de prendre 15 g de glucides qui font monter la glycémie rapidement, tels que 3 sucres, par exemple, 3 sucres numéro 4. Ce sont les sucres en fait habituels, rectangulaires. Vous pouvez également prendre une pâte de fruits, une cuillère à soupe de confiture ou de miel qui équivalent à 15 g de glucides, une bonne cuillère à soupe. Vous pouvez également prendre une demi-canette de coca ou de soda non light, c'est très important. Il ne faut pas vous resucrer avec du coca light ou du Pepsi light parce que votre glycémie ne remontera pas. Donc il faut, en cas d'hypoglycémie, prendre une demi-canette de soda non light. Vous pouvez également vous resucrer avec Pâte de fruits, je crois qu'on l'a dit. Voilà, donc pour faire remonter votre glycémie rapidement. Une fois que vous êtes resucré avec ces 15 grammes de glucides, vous allez contrôler votre glycémie 10 à 15 minutes après. Si la glycémie remonte, c'est très bien. Si la glycémie n'est pas remontée de manière satisfaisante, vous allez renouveler l'opération en reprenant 15 grammes de glucides de cette façon-là. Si vous êtes traité par pompe à insuline, vous pouvez interrompre le débit de votre pompe à ce moment-là et attendre de remonter au-delà des 1 g par litre pour pouvoir relancer votre pompe. Si vous êtes proche d'un repas, vous pouvez, par exemple, si l'hypoglycémie arrive à 11h30 que vous aviez prévu de manger à midi, une fois que vous vous êtes resucré, vous allez pouvoir avancer votre repas pour avoir également des féculents pour éviter la récidive de l'hypoglycémie. Si maintenant vous êtes loin d'un repas, que l'hypoglycémie arrive par exemple en plein après-midi et que vous voulez tenir jusqu'au repas suivant, vous pouvez prendre, une fois que vous avez fait remonter votre glycémie, que vous avez pris des glucides qui font remonter rapidement la glycémie, vous pouvez à ce moment-là prendre une collation qui va vous permettre de tenir le reste de l'après-midi, avec des glucides de plus lente durée d'absorption et de plus lente durée d'action. On sait que lorsque des graisses sont associées aux glucides, le glucide est absorbé de manière plus lente, ou lorsqu'il y a des fibres, par exemple dans les fruits. Le fruit ne doit pas être utilisé comme un moyen de resucrage en cas d'hypoglycémie pour remonter rapidement, puisqu'il contient des fibres qui allongent la durée d'absorption du sucre. Donc le fruit, par contre, peut être utilisé en collation après pour éviter la récidive de l'hypoglycémie une fois que vous êtes resucré de manière adaptée. Donc, voilà pour Myriam. Guillaume, vous nous disiez que vous étiez diabétique de type 1. Vous êtes sous schéma basal bolus, c'est-à-dire que vous avez une insuline lente le soir et des bolus d'insuline rapide au repas. Et vous faites souvent des hypoglycémies au moment du sport. Vous me demandez quoi faire. Alors, c'est une bonne question, Guillaume. Déjà, lorsque on fait du sport, il faut toujours avoir sur soi de quoi se resucrer. En cas d'hypoglycémie, mais également si l'activité physique est prolongée, on vous demandera toutes les heures de prendre une collation de 15 g de glucides afin d'éviter l'hypoglycémie durant l'effort. Vous êtes sous schéma basal bolus, ce qui veut dire que vous avez des insulines rapides à chaque repas et une insuline lente le soir. Donc si votre activité physique est faite proche du repas, par exemple, jusqu'à 3 heures, 4 heures, voire 4 heures après le repas, on vous conseillera de réduire votre dose d'insuline rapide de 50%. Ou alors de majorer la part des féculents au moment de votre repas. Si maintenant votre activité est faite en fin d'après-midi, vous allez faire votre bolus d'insuline du midi tel que vous le faites habituellement, mais il faudra prendre une collation à 20 g de glucides avant de réaliser votre activité physique. Si maintenant votre activité physique est prolongée, qu'elle dure longtemps et qu'elle est faite dans la soirée, afin d'éviter les hypoglycémies nocturnes, il vous est également possible de réduire votre insuline lente de 20%. Voilà ce qu'on aura tendance à conseiller lorsque l'on est sous schéma basal bolus. Lorsque l'on est sous pompe à insuline, on peut pratiquer différemment en mettant par exemple un débit de base temporaire au moment de l'activité. On peut activer même ce débit de base temporaire un peu avant l'activité, par exemple une heure avant l'activité pour éviter l'hypoglycémie durant l'effort. Et ce débit basal temporaire sera réduit de 30 à 50% par rapport à la dose de basal qui passe habituellement. Voilà donc pour Guillaume. Aline, vous me demandiez comment resucrer quelqu'un qui a perdu connaissance à cause d'une hypoglycémie. Alors, c'est une bonne question, Aline. En fait, quelqu'un qui alors, si la personne est consciente, elle est un peu confuse, mais qu'elle est consciente, qu'il n'y a pas de trouble de la déglutition, qu'elle avale normalement, qu'elle peut manger normalement, vous pouvez, après avoir confirmé l'hypoglycémie par un test au bout du doigt, par une glycémie capillaire, essayer de la resucrer oralement. Si maintenant la personne est inconsciente, il ne faut pas essayer à tout prix de lui faire avaler du sucre par la bouche au risque qu'elle inhale et qu'elle fasse une pneumopathie, qu'elle s'étouffe avec. Donc il faut par contre, si la personne est insulinée, qu'elle est diabétique de type 1, notamment, elle doit bénéficier d'une prescription d'un traitement par glucagon. Vous connaissez certainement le glucagène. Je vous ai apporté ici l'échantillon, donc le glucagon que l'on injecte, qui se conserve au réfrigérateur. C'est une boîte orange, donc qui doit être conservée au réfrigérateur. Voilà, le patient lui-même ne peut pas s'en servir seul, évidemment, puisqu'il est, en général incapable de... Enfin, il a des troubles de conscience ou il est dans le coma. Donc c'est la personne à la maison qui vit avec lui qui va pouvoir s'en servir. Évidemment, il faut avoir été formé à l'injection parce que il est nécessaire de faire une reconstitution du produit. Le patient donc est en l'incapacité de faire son injection. Donc c'est la personne tierce, on appelle ça la personne, la personne qui l'accompagne à la maison, qui va pouvoir réaliser l'injection. Alors comment ça se passe en pratique? Je vous ouvre la boîte. Vous avez une seringue qui contient du sérum physiologique et puis un petit flacon qui contient la poudre de glucagon. Donc, la personne qui réalise l'injection doit avoir été formée au préalable par l'équipe médicale qui suit le patient. Comment ça se passe en pratique? On décapuchonne la seringue. Vous avez donc une aiguille qui permet l'injection du produit. Ce produit doit être injecté, donc là, le sérum physiologique est injecté dans le flacon de glucagon. Une fois que vous avez injecté le sérum physiologique, vous allez mélanger tout doucement le produit, comme ça, pour homogénéiser la solution. Ensuite, vous reprenez la seringue et vous aspirez toute la solution. Après avoir vidé d'air la seringue, vous aspirez la solution et ce produit va être injecté au patient en intramusculaire ou en sous-cutané. Comme je vous le disais, vérifiez bien avant qu'il s'agit bien d'une hypoglycémie. S'il ne s'agit pas d'hypoglycémie, il faut absolument appeler le 15. Si c'est une hypoglycémie, vous pouvez réaliser l'injection. Le patient va se réveiller très rapidement après l'injection. Il faut par contre l'encourager à consommer une collation riche en glucides pour pouvoir reconstituer les réserves en sucre au niveau du foie. Il existe maintenant également, depuis quelques temps, en France, un autre système permettant de resucrer un patient avec des troubles de la conscience. C'est du glucagon également et ça s'appelle le Baqsimi. C'est un système qui est plus facile d'utilisation puisqu'il n'y a pas besoin de reconstituer le produit. Il se conserve à température ambiante en ne dépassant pas les 30 degrés. Par contre, c'est un système qui n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale en France. Donc, il est quand même disponible à l'achat, mais il n'est pas remboursé. Comment ça se passe en pratique? Vous ouvrez la boîte. C'est un système qui contient donc une poudre de glucagon. Comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de reconstituer le produit. C'est un système qui n'est utilisé qu'une seule fois. C'est une dose unique. Une fois que le produit a été utilisé, c'est terminé. Il faut jeter le système. Donc, l'intérêt, c'est que le patient inconscient n'a pas besoin d'inhaler. C'est un produit qui va se délivrer dans le nez, donc en intranasal, dans une narine. Le patient n'a pas besoin d'inhaler le produit. Même s'il est enrhumé, ça marche quand même. Donc, la personne qui l'accompagne, si elle le trouve inconscient, elle a confirmé l'hypoglycémie, elle va pouvoir injecter le produit dans une narine. Donc, en pratique, vous prenez de la sorte et il va falloir, une fois que le produit a été mis dans la narine du patient, appuyer jusqu'au bout sur le bouton blanc et vous avez un petit trait vert ici qui doit arriver au contact de la base du flacon. Voilà, vous poussez à fond. Et là, comme pour le glucagon injectable, normalement le patient doit se réveiller et prendre une collation sucrée pour reconstituer ses réserves de sucre au niveau du foie. Si vous ne savez pas le faire ou s'il y a un problème, le patient ne se réveille pas, il faut de toute façon appeler le 15 ou le 112. Il ne faut pas hésiter à appeler le SAMU s'il y a le moindre souci ou si vous êtes paniqué parce qu'effectivement dans l'urgence parfois ben, on a appris à le faire mais on est complètement paniqué, donc vous appelez le 15. Voilà pour Aline. Serge, vous nous demandiez comment éviter les hypoglycémies. Alors, donc Serge, je vous répondrai que en étant diabétique, lorsque l'on prend un traitement susceptible de provoquer des hypoglycémies, effectivement, il y a certaines recommandations au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion de ces traitements à respecter. Alors, tous les médicaments ne donnent pas des hypoglycémies chez le diabétique. La metformine, le Januvia, le Xélévia, le Galvus, le Janumet, le Créas, le Trulicity, le Victoza, l'Ozempic, le Forxiga sont des médicaments qui ne donnent pas, qui ne provoquent pas d'hypoglycémie lorsqu'ils sont utilisés seuls et qu'ils ne sont pas associés à d'autres médicaments qui donnent des hypos. Les médicaments qui peuvent provoquer les hypoglycémies sont l'insuline, évidemment, et les sulfamides hypoglycémiants, tels que le diamicron, le gliclazide, l'amarelle, glimépiride, daonil, glibenclamide, toutes ces molécules que vous avez peut-être, et puis les glinides, donc le novonorme ou répaglinide. Ces médicaments-là peuvent effectivement provoquer des hypoglycémies. Donc, lorsqu'on a un traitement susceptible de provoquer des hypoglycémies, il faut veiller à consommer à chaque repas des féculents. Et puis, il faut bien évidemment se surveiller régulièrement parce qu'un diabétique traité par insuline, s'il ne se surveille pas, il a d'autant plus de risques de présenter des hypoglycémies. Donc, il faut vraiment avoir une surveillance régulière de son diabète afin d'éviter les hypoglycémies pour pouvoir non seulement se resucrer en cas d'hypoglycémie, mais également réévaluer son traitement, réajuster son traitement, réduire ses doses d'insuline si jamais vous avez une tendance à l'hypoglycémie. Pour ce qui est des antidiabétiques oraux, si vous êtes sous les traitements que j'ai cités précédemment et que vous faites régulièrement, que vos glycémies sont régulièrement basses, à ce moment-là, il faut revoir les choses avec votre médecin traitant ou votre diabétologue pour réduire la dose, voire passer à un autre traitement, non pourvoyeur d'hypoglycémie. Pour les gens qui sont sous insuline, on l'a vu précédemment, vous pouvez réduire les bolus, faire également un débit basal temporaire en cas d'activité physique. Et puis, il faut savoir aussi que certains diabétiques de type 1 ont accès à un capteur de glucose connecté à la pompe, tel que le capteur Enlight, le capteur Dexcom G6, ou pour les systèmes en boucle fermée, capteur Sensor 3 ou Dexcom G6. Et ces capteurs sont capables d'enregistrer en continu le taux de glucose interstitiel et interrompre la délivrance d'insuline par la pompe lorsqu'ils détectent que vous allez passer en hypoglycémie. Donc ça peut être un moyen également de prévenir les hypoglycémies chez les patients diabétiques de type 1 qui ont tendance à faire des hypoglycémies sévères. On entend par hypoglycémie sévère les hypoglycémies qui nécessitent le resucrage par un tiers. Le patient est incapable de se resucrer lui-même. Et puis évidemment, il faut toujours avoir de quoi se resucrer lorsque vous partez faire une activité, lorsque vous êtes au travail, il faut toujours avoir de quoi se resucrer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les hypoglycémies. Je vais répondre à une question de Kamel qui me demandait, qui parlait des hyperglycémies et de l'acétone. Et après, je répondrai à vos questions si vous en avez en direct. Donc, Kamel est diabétique de type 1, traité par pompe à insuline. Il fait souvent des hyperglycémies à 3 grammes et il demande s'il doit contrôler l'acétone et quoi faire. Donc, effectivement, Kamel, lorsque votre glycémie dépasse les 2,50 g, il est important de contrôler l'acétone pour vérifier que l'hyperglycémie ne s'accompagne pas de corset tonique, que ce soit au niveau du sang ou des urines. Vous avez donc deux possibilités de le faire. Certains patients disposent d'un lecteur de glycémie qui peut également contrôler l'acétone avec un autre type de bandelette. Et si vous êtes à plus de 2,50 g, vous allez donc vous piquer au bout du doigt et contrôler l'acétone dans le sang. Le lecteur va vous fournir plusieurs valeurs d'acétonémie et selon ces valeurs d'acétonémie, il faudra prendre une décision. On conseille, lorsque l'acétone est comprise entre 0,3 au niveau du lecteur, au niveau du sang, lorsque l'acétone est comprise entre 0,3 et 0,6 millimoles par litre, ça équivaut à des traces d'acétone dans les urines, si vous le faites à la bandelette urinaire. Dans ce cas-là, on vous conseillera de contrôler l'acétonémie une heure après. Si l'acétone au niveau du sang, donc l'acétonémie, est comprise entre 0,6 et 1,5 millimoles, cela équivaut en général à 2 croix d'acétone dans les urines. Et on vous conseillera à ce moment-là de faire, selon les doses d'insuline que vous avez, 2 à 3 unités par croix d'acétone. Donc si vous avez 2 croix, 0,6 à 1,5 millimoles d'acétone, on vous conseillera de faire autour des 4 unités d'insuline rapide, donc de bolus d'insuline rapide. Si vous êtes sous schéma basal bolus, le bolus doit être fait avec votre stylo d'insuline rapide. Si vous êtes sous pompe à insuline, le bolus doit également être fait avec un stylo, j'y reviendrai. Si votre cétonémie se situe entre 1,5 et 3 millimoles, cela correspond à 3 à 4 croix, on vous conseillera de faire 6 à 8 unités. Et si l'acétone dépasse les 3 millimoles, vous ferez une dizaine d'unités en urgence et puis vous appellerez votre diabétologue en urgence puisqu'il y a un risque d'acidocétose. Votre diabétologue vous conseillera soit de poursuivre la surveillance à la maison et de faire des rajouts d'insuline ultra rapide si nécessaire, soit il vous conseillera de venir en hospitalisation en urgence, surtout si vous commencez à développer des signes d'acidocétose qui sont en général des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, un essoufflement et ça peut aller jusqu'aux troubles de la conscience ou un coma. Donc l'acidocétose est une urgence diabétologique et nécessite une hospitalisation. Si vous êtes sous pompe à insuline et que vous faites de l'acétone, le bolus d'insuline doit être réalisé au stylo et vous devez à ce moment-là changer tout le dispositif de la pompe parce qu'il s'agit parfois d'une tubulure bouchée ou d'un problème de cathéter, d'un problème de tubulure ou d'un cathéter bouché. Et dans ce cas-là, si vous faites le bolus avec la pompe, ça ne marchera pas. Voilà, je pense avoir répondu aux questions posées de la semaine. Je vais maintenant répondre aux questions en direct. Yves, vous me demandez si le manque d'hydratation peut majorer le risque d'hypoglycémie. En fait, l'hydratation n'a pas de réel lien avec l'hypoglycémie. C'est plutôt les décompensations hyperglycémiques dans l'hyperosmolarité chez le patient diabétique de type 2, plutôt âgé, qui va se déshydrater en cas d'hyperglycémie. Mais ça ne majore pas le risque d'hypoglycémie. Khalil, existe-t-il des aliments qui font baisser la glycémie ? Khalil, je n'ai pas la réponse à votre question. Je poserai la question à la diététicienne et puis on tentera à l'occasion d'une prochaine émission en fait de vous répondre. Voilà, Marielle, vous me dites, vous avez été opérée d'une prothèse de hanche lundi. Vos glycémies sont entre 2,50 g et 3 g. Est-ce normal après une opération ? Vous êtes diabétique de type 2. Une opération, un stress, une douleur peut favoriser un déséquilibre de diabète et entraîner des hyperglycémies. Donc effectivement, après une opération de hanche, il peut y avoir un déséquilibre de diabète. Il y a des médicaments aussi qui provoquent des déséquilibres glycémiques tels que la cortisone. Donc si c'est transitoire et que les choses rentrent dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Si maintenant vous voyez que vos hyperglycémies persistent à 2,50 g, 3 g, il faut consulter votre médecin pour revoir votre traitement et puis bien vous hydrater pour éviter le risque de déshydratation à cause de ces hyperglycémies. Catherine, vous me demandez si les pompes à insuline anticipent les hypoglycémies. Est-ce qu'elles peuvent anticiper les hypoglycémies ? La pompe en insuline elle-même seule, non. Par contre, la pompe couplée à un capteur de glucose, effectivement, peut être intéressante pour des patients qui font fréquemment des hypoglycémies. Comme je vous l'ai expliqué, il existe plusieurs systèmes connectés, plusieurs pompes connectées. à des capteurs. Le capteur de glucose va enregistrer en continu votre taux de glucose et renseigner la pompe sur ses valeurs de glucose. Et lorsque l'on va, lorsque le système renseigne la pompe sur une hypoglycémie à venir, le système est capable d'interrompre la pompe transitoirement jusqu'à ce que la glycémie remonte. Donc ça permet pour certains patients effectivement d'éviter de nombreuses hypoglycémies. Il y a également le capteur Freestyle Libre, vous le connaissez quasiment tous. Il va évoluer, le Freestyle Libre 2 va, on l'espère, prochainement être remboursé. Il existe déjà, mais il n'est pas encore remboursé. Ce système a la possibilité de vous alerter en cas d'hypoglycémie. Il ne prévient pas l'hypoglycémie parce qu'il n'est pas encore couplé en fait à une pompe et il ne peut pas arrêter en fait la pompe. Par contre, c'est un système qui enregistre en continu votre taux de glucose interstitiel et en cas d'hypoglycémie, il va permettre de vous alerter au moyen d'alarmes que vous aurez préprogrammées. Donc ça peut être intéressant chez les patients qui ont tendance à avoir des glycémies basses et à faire des hypoglycémies et ne pas toujours les ressentir, donc pour pouvoir en fait se resucrer dès que possible. C'est un système qui que vous pouvez aussi paramétrer une alerte hyperglycémie, donc ça peut être intéressant à la fois pour l'hypo et pour l'hyper. Akimouche, vous me demandez si le ramadan est possible en cas de diabète de type 1. Alors, vous n'êtes pas diabète de type 1 si vous êtes sous répaglinide, Akimouche. Les diabétiques de type 1 sont traités la plupart du temps par insuline. Par insuline en basal bolus, donc avec 4 injections ou pompe. Si vous êtes sous répaglinide, vous êtes diabétique de type 2. Donc, Akimouche, je ne connais pas vos antécédents, vos comorbidités. Je pense que c'est important de demander à votre médecin traitant ou votre diabétologue s'il ne voit pas de contre-indication à ce que vous puissiez pratiquer le jeûne. S'il n'y a pas de contre-indication, vous êtes sous répaglinide. Le répaglinide est pourvoyeur d'hypoglycémie, donc il ne faudra pas le prendre si vous ne mangez pas. Le répaglinide sera pris au moment du repas, si le repas contient des glucides. Si vous ne mangez pas ou que vous ne consommez pas de glucides, vous ne prendrez pas votre répaglinide. Nadia, vous me dites, en cas d'hypoglycémie, puis-je prendre des bonbons si vous n'avez que cela à portée de main? Oui, Nadia, vous pouvez prendre des bonbons en cas d'hypoglycémie. 15 grammes de glucides équivalent à peu près à 3 bonbons. Donc, vous pouvez prendre 3 bonbons pour faire remonter votre glycémie rapidement. Voilà, je crois que je ne sais pas si on a d'autres questions. Non, on n'a pas d'autres questions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, puisqu'on arrive au terme de l'émission, il nous reste 2 minutes. Je vais voir si j'avais autre chose à vous dire. Pour les signes d'hyperglycémie, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, l'hypoglycémie on l'a bien détaillé, donc maintenant vous connaissez les signes. Les signes d'hyperglycémie sont la soif intense, la présence d'urine fréquente, d'urine abondante. Si vous constatez que vous avez très soif, vos urines sont abondantes, il faut contrôler votre taux de sucre au bout du doigt, ou votre taux de glucose interstitiel pour vérifier que vous ne soyez pas en hyperglycémie. Et pour les diabétiques de type 1, si l'hyperglycémie dépasse les 2,50 g à 3 g, effectivement, il faut contrôler la cétone. Les diabétiques de type 2 ont très peu de risque de faire des décompensations acido-cétosiques. Ont très peu de risques de faire des décompensations acido-cétosiques, ils font peu d'acétone, les diabétiques de type 2. Par contre, je vous parlais tout à l'heure des décompensations hyperosmolaires chez les diabétiques de type 2, plutôt âgés. Donc ce sont en fait des déshydratations qui sont liées à l'hyperglycémie et chez des patients souvent qui n'ont pas accès à l'eau de manière facile, facilement. Par exemple, les patients en EHPAD qui ne ressentent pas très bien la soif, qui ne vont pas boire suffisamment s'ils sont en hyperglycémie, eh bien ces patients-là vont monter leur glycémie, se déshydrater et ça peut être dangereux également et nécessiter une hospitalisation pour réhydrater le patient et mettre en place de l'insuline par voie intraveineuse. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.